Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Ils étaient des dizaines de milliers à défiler hier à Bologne, en Italie. Le tout jeune mouvement antifasciste des Sardines ne baisse pas la garde avant les élections régionales de ce dimanche en Émilie-Romagne et en Calabre. Des élections qui pourraient voir la victoire du parti d'extrême droite, la Lega, un scénario qu'attend de pied ferme l'ancien ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, pour demander la chute de l'actuel gouvernement de coalition et des élections anticipées. En attendant, ce mouvement des Sardines, qui est né grâce aux réseaux sociaux, fait des émules. À Ravenne, toujours en Émilie-Romagne, Cécile Debarge a rencontré des habitants de 65 à 90 ans, qui eux aussi veulent se mobiliser avec les jeunes Sardines contre le populisme.
La salle réservée par Daniele Perini, conseiller municipal de 60 ans, est pleine. Face à lui, une petite centaine de Sardonis, des seniors de la région, voire des régions voisines, venus découvrir cette nouvelle initiative.
L'idée est née parce qu'une petite fille de 5 ans avait vu à la télé les places pleines de jeunes. Et alors, en parlant avec son grand-père, elle lui a fait un dessin et elle lui a dit « Si moi je suis une sardine, alors toi tu es un sardonnais ».
Sardonnais, littéralement, c'est une vieille sardine. La remarque de la petite fille fait rire le grand-père, puis le fait réfléchir. Dans le pays le plus vieux d'Europe, le deuxième le plus vieux au monde, les personnes âgées ont parfois du mal à trouver leur place au cœur de la société, explique Daniele Perini.
Aujourd'hui, les jeunes sont d'un côté, les personnes âgées de l'autre, et il n'y a pas de rencontre. Ici, c'est la première rencontre entre jeunes et anciens qui peuvent échanger leurs idées.
Pourtant, dès les premiers rassemblements des Sardines, le troisième âge a participé en nombre, rappelle l'un des coordinateurs du mouvement à Ravenne, Eduardo Carli, 26 ans.
Les valeurs que notre place de Ravenne, mais aussi toutes les places d'Émilie-Romagne, ont voulu démontrer sont les valeurs d'accueil et de partage. C'était beau de voir comment toutes les générations étaient là pour parler ensemble, défendre ces valeurs et montrer qu'ils y croyaient. Des enfants venus avec leurs parents, jusqu'aux grands-parents aux cheveux blancs.
Un mélange des générations nécessaire, voire salvateur, dans un contexte politique tendu en Italie. Daniele Perini.
I nonni oggi.
Les grands-parents d'aujourd'hui sont les enfants qui avaient 5 ou 6 ans sous le fascisme et qui ont vu leurs grands frères se faire enrôler pour combattre en Russie ou qui ont vu leur père ou leur mère déportés. Ils ont encore leurs blessures à vif.
Au premier rang, un homme se lève et demande le micro.
Moi, je suis fier parce que ces jeunes qu'on décrivait comme apathiques, qui ne s'intéressent à rien, eh bien finalement, aussi bien les Sardines que la jeune Greta Thunberg, ils nous secouent et il était temps, il était vraiment temps.
Quelques rangs plus loin, M. Bessi, 84 ans, dans quelques semaines, explique pourquoi il est venu.
Par curiosité, pour voir qui était là, même si en réalité je ne connaissais personne. Mais ça m'a fait une bonne impression de gens qui ont envie de se remonter les manches, comme on dit.
Lorsque le public commence à réagir, beaucoup se plaignent du système de santé italien, du manque de services pour les personnes âgées, de la bureaucratie qui alourdit chaque démarche pour les Italiens. Rapidement, Daniele Perini le rappelle, l'idée des Sardonis n'est pas de devenir un bureau des plaintes, mais plutôt de profiter de l'élan donné par les Sardines pour modifier en profondeur la société et la faire changer. Une idée sur laquelle insiste fortement le philosophe, professeur à l'Université de Bologne, invité ce soir-là.
Stefano Bonaga.
Il y a dans la société des forces énormes qui ne parviennent pas à s'exprimer parce qu'on se demande juste ce qu'on veut. Or, la question qui a animé toutes les révolutions, c'est qu'est-ce que l'on peut faire ?
Une femme parle de ses activités de bénévolat auprès des enfants qui l'aident à rester en contact avec les forces vives de la société. Un vieil homme propose de créer un syndicat des jeunes au-delà des clivages politiques pour défendre leurs droits. Stefano Bonaga, lui, les incite à voir plus grand, avec en toile de fond cette question qui triturera l'esprit des Sardines jusqu'à début mars et le premier congrès du mouvement. Que faire ? Concrètement pour lutter contre le populisme.
Ce que l'on peut, on ne le sait pas jusqu'à ce qu'on le fasse, car on ne découvre la puissance qu'une fois qu'on l'a mise en œuvre.
À la fin du rassemblement, rendez-vous est pris pour les semaines à venir. L'enthousiasme est palpable, même si on peine encore à définir la forme que prendra cette mobilisation. L'échéance la plus immédiate, en revanche, est claire. Ce dimanche 26 janvier, avec les élections régionales en Émilie-Romagne et l'envie pour ces Sardonis de contribuer eux aussi à faire barrage à la Ligue de Matteo Salvini.
L'environnement et les lanceurs d'alerte. On ne présente plus Greta Thunberg, la jeune Suédoise égérie de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais elle n'est ni la première, ni la seule à se battre sur ce terrain. En Turquie, un pays désormais tristement célèbre pour ses atteintes répétées à la liberté de la presse et d'opinion, un scientifique, Bülent Çök, a été condamné en septembre dernier à 15 mois de prison ferme. Son crime, avoir dénoncé un scandale sanitaire mettant en cause des produits cancérigènes à Istanbul, à Nandlaouar.
L'État a caché ces produits qui donnent le cancer à la Turquie, nous les révélons. C'est avec ce titre que Bülent Çök inaugurait le 15 avril 2018 une série d'articles dans le quotidien d'opposition Cumhuriyet. Il y expliquait comment le ministère turc de la Santé avait caché au grand public les résultats d'une étude menée dans 4 provinces du pays où les cas de cancer semblaient particulièrement fréquents. Bülent Çök était bien placé pour connaître cette étude menée entre 2011 et 2016. Il y avait participé. À l'époque, il travaillait au centre de recherche sur la sécurité alimentaire et agricole de l'université Akdeniz à Antalya. L'étude faisait état de niveaux de pollution inquiétants et potentiellement cancérigènes dans l'eau et les fruits et légumes de différentes localités. Ces résultats n'ont jamais été rendus publics et, selon Bülent Çök, aucune mesure n'a été prise pour la santé des habitants des provinces concernées. C'est ce qui a poussé le chercheur à prendre la plume dans Cumhuriyet. Le ministère de la Santé a porté plainte et Bülent Çök, au terme de plusieurs mois de procès, a été condamné à 15 mois de prison. Il a été reconnu coupable d'avoir, je cite, « rendu public des informations relevant du secret professionnel ». Tout au long de son procès, Bülent Çök s'est évertué à défendre ce qu'il a appelé « la responsabilité sociale des scientifiques ». Lorsque les institutions publiques ne remplissent pas leurs obligations, il est du devoir des scientifiques de leur rappeler leurs responsabilités. L'avenir de notre société est trop important pour être laissé aux mains des intérêts de court terme, des entreprises et institutions, a-t-il lancé au cours d'une audience. Pour les défenseurs des droits de l'homme, la condamnation de Bülent Çök, dont il a fait appel, est un nouveau coup dur pour la liberté d'expression en Turquie. Le chercheur en sait quelque chose. Après le coup d'état manqué de juillet 2016, il avait été limogé de son poste à l'université Akdeniz pour avoir signé, quelques mois plus tôt, une pétition réclamant l'arrêt des violences d'État dans le sud-est à majorité kurde.
Lui a désormais un film, un biopic à son nom. Bruno Manzer, La Voix de la Forêt, vient de sortir sur les écrans en Suisse. Le long métrage dresse le portrait d'un des militants écologistes les plus célèbres des années 80-90. En Malaisie, cet homme a dénoncé avant tout le monde les ravages de la déforestation. Après avoir attaqué frontalement les pratiques de l'industrie du bois, il a disparu dans des conditions mystérieuses dans la jungle de Bornéo. Retour sur un combattant d'avant-garde à Genève, Jérémy Lanche.
C'est Hollywood qui a d'abord pensé à adapter la vie de Bruno Manzer à l'écran. Steven Spielberg se serait intéressé au projet dans les années 90. Il aura finalement fallu attendre fin 2019 et le biopic du Suisse Niklaus Ebert pour qu'une fiction lui soit consacrée. Bruno Manzer, La Voix de la Forêt Tropicale, est l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma suisse. L'histoire de Manzer, c'est d'abord celle d'un formidable explorateur. Né en 1954 dans une famille d'ouvriers à Bâle, Manzer est un touche-à-tout. Pacifiste, il fait quelques mois de prison pour avoir refusé de faire son service militaire. Son envie de mener une vie simple, détachée des considérations matérielles, le pousse à quitter la Suisse. En 1984, il prend la direction de la partie malaisienne de l'île de Bornéo et la province du Sarawak. Là-bas, il rencontre les Penan, un peuple nomade qui vit dans la forêt tropicale. Il passera 6 ans à leur côté, 6 années d'immersion totale pendant lesquelles il apprend leur langue, leur culture. Manzer s'habille avec un simple pagne, chasse à la sarbacane, se nourrit de viande de brousse, une expérience de vie radicale. Il s'en expliquait dans un reportage de la RTS tourné en 1993.
Après avoir fait l'école pour 12 ans, on est forcé d'être assis et écouter. Bien sûr, j'ai eu vraiment soif pour les expériences de la vraie vie. Et les vraies expériences, c'est pas des livres, c'est pas à l'école. c'est si on travaille soi-même. Et c'est la raison aussi que j'ai voulu travailler avec mes mains et j'ai voulu vraiment savoir de première source.
Celui que les Pénan appellent désormais l'Aki Pénan, l'homme Pénan, n'était pas destiné à devenir un lanceur d'alerte. Mais tout change lorsque Manzer découvre les ravages provoqués par l'exploitation du bois tropical dans le Sarawak. Les coupes rases ne font pas que détruire la forêt, elles mettent aussi en danger les peuples indigènes. Pollution de l'eau, disparition des animaux, la survie des Pénan ne tient plus qu'à un fil. D'explorateur, Manzer se transforme en militant de la lutte contre la déforestation, saut en parachute. Chute avec une brebis au-dessus des Nations Unies, grève de la faim devant le siège du gouvernement suisse. Manzer multiplie les actions choc. On le voit au sommet de la Terre de Rio en 1992. La même année, il est à Munich au moment du G7. Icône écologiste pour les uns, agitateur fantasque pour les autres, Manzer ne laisse pas indifférent sans que la situation à Bornéo ne change pour autant.
C'est devenu une espèce de mission parce que sur place, rien n'a changé. C'est devenu pire jusque maintenant.
Bruno Manzer retourne régulièrement au Sarawak pour aider les Pénan, des voyages qui deviennent de plus en plus dangereux. En délicatesse avec les autorités locales et les compagnies forestières, Manzer vit dans la crainte d'une arrestation. On dit même que sa tête est mise à prix. Sa disparition à 46 ans, en 2000, dans la forêt tropicale, reste à ce jour un mystère. Le magazine Time en fera sa une un an plus tard. Dernier écho médiatique sur un homme qui a toujours préféré l'ombre de la forêt de Bornéo à la lumière des plateaux télé, mais qui avait forcé sa nature par amour des Pénan.
Si vous n'aviez pas cette cause, qu'est-ce que vous feriez ?
Je me baladais, comment ce qu'on dit en français, dans la jungle ou dans la nature, dans les montagnes de la Suisse. Je fais les dessins de la nature, des plantes, du gibier et ferai mes aventures.
Et en France, le pays qui consomme le plus de pesticides en Europe avec l'Espagne, les vignobles sont souvent montrés du doigt. Dans le Bordelais, une femme, Marie-Lise Bibéran, qui a longtemps travaillé comme salariée agricole, s'est engagée pour faire changer les pratiques, une politique des petits pas qu'elle a entamée, Lise Verbeck, il y a 10 ans, après un drame familial.
Oui, au décès de son frère, mort d'un cancer très rare des voies biliaires. Il avait 46 ans, elle était salariée viticole près de Bordeaux depuis plus de 30 ans. Très vite, Marie-Lise Bibéran fait le rapprochement entre sa maladie et les pesticides qu'il pulvérisait dans les vignes, car son frère ne boit pas, ne fume pas, et son type de cancer touche habituellement les vieillards. Son combat démarre là, faire reconnaître la maladie de son frère comme maladie professionnelle. Elle entame une longue procédure en 2011 qui s'est terminée par un échec. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi il y a 2 ans. En parallèle, Marie-Lise Bibéran s'engage à corps perdu contre les pesticides dans les vignes. Elle fonde le collectif Infomédoc Pesticides pour sensibiliser sur les dangers des produits phytosanitaires. Danger qu'elle connaît par cœur pour travailler dans le milieu, même si aujourd'hui elle est saisonnière dans un domaine bio. Son collectif a réussi à obtenir des domaines viticoles qu'ils envoient un SMS aux riverains les jours de pulvérisation. Un système qui s'est d'ailleurs répandu en France. Mais les exploitants sont loin de tous respecter cela, ajoute-t-elle amèrement. Marie-Lise Bibéran se bat également aux côtés des collectifs de parents d'élèves de plus en plus nombreux à se constituer dans le Bordelais pour réclamer une zone de protection de 200 mètres autour des écoles cernées par les vignes. Certains ont même obtenu gain de cause. C'est la politique des petits pas, reconnaît la lanceuse d'alerte, qui avoue avoir appris la patience. Son combat lui a valu des menaces et des intimidations du milieu viticole dans la région bordelaise. C'est toujours l'omerta, c'est même encore plus compliqué qu'il y a quelques années, dit-elle, car les dirigeants du monde du vin continuent de fermer les yeux, et ce même s'il y a une vraie prise de conscience des consommateurs. Avec son collectif, fort de plus de 300 adhérents, elle édite un journal, des plaquettes et des flyers pour sensibiliser. Elle mène des actions sur le terrain, organise des soirées débats ou encore des enquêtes toxicologiques sur les cheveux, la terre ou encore la poussière dans les maisons. Elle compte profiter des élections municipales à venir pour, dit-elle, mettre un nouveau coup de pression sur les élus.
I am the river Lagan, the city of Belfast.
On a beaucoup parlé de la paix en Irlande du Nord, installée depuis 20 ans maintenant, depuis les accords du Vendredi Saint. Une paix fragile qui pourrait être remise en cause par le Brexit et la réapparition d'une frontière entre le Nord et le Sud de l'île. C'est dans ce contexte que deux journalistes publient Children of the Troubles, l'histoire secrète des enfants tués pendant le conflit en Irlande du Nord. Une analyse sans concession des circonstances dans lesquelles de nombreux enfants ont trouvé la mort dans une guerre civile qui a fait plus de 3000 victimes à Dublin, Emeline Vann.
Dans les 400 pages de Children of the Troubles, Joe Duffy et Freya McClemens racontent l'histoire de 186 enfants. 186 personnes de moins de 16 ans tuées pendant les troubles, comme on appelle la guerre civile nord-irlandaise. Freya McClemens, journaliste en Irlande du Nord, a voulu se souvenir de ses enfants au-delà des circonstances de leur mort.
Ce qu'on voulait, c'était parler d'eux. Par exemple, il y a eu une explosion dans un bar de Belfast, le McGurk, en 1971. Deux enfants ont été tués dans cet attentat et ils sont à peine mentionnés. C'est souvent la fille du tenancier et un ami. Cet ami s'appelait Jimmy Cromie. On a parlé à son cousin et en fait, Jimmy était un garçon plein d'imagination. Il y avait un couvent à Belfast, caché derrière un mur, et Jimmy disait toujours à son cousin qu'il y avait un zoo à l'intérieur. Et son cousin trouvait ça formidable. Du coup, Jimmy devient une personne qu'on peut se représenter, et pas seulement un nom.
On découvre ainsi l'histoire de Paul Maxwell, 15 ans, qui travaillait pour la famille royale britannique quand le bateau de Lord Mountbatten a explosé au large de l'Irlande en 1979. L'histoire aussi de Tracy Munn, tuée à 2 ans dans une explosion dans le centre-ville de Belfast en 1971. Pour d'autres enfants, il a fallu établir qu'ils étaient bien victimes des troubles.
Par exemple, les enfants renversés par des véhicules militaires n'étaient pas considérés comme des victimes du conflit. Il y a eu ce garçon renversé alors qu'il rentrait d'une séance de cinéma un samedi matin. Cette petite fille sortie jouer à la corde à sauter dans la rue quand un blindé a déboulé à pleine vitesse. Pour nous, ces enfants sont incontestablement victimes des troubles parce que c'est à cause des troubles que les militaires étaient dans les rues où vivaient ces enfants.
Avec Children of the Troubles, les deux journalistes mettent également en lumière le combat de certaines familles pour laver le nom de leur enfant, comme celui des McGavigan qui bataillent depuis 50 ans.
Il y a l'affaire d'Annette McGavigan, une collégienne de 14 ans. Elle a été abattue dans la ville de Derry en 1971 par l'armée britannique. L'armée a toujours affirmé qu'elle avait été tuée par un sniper. Il y a des images de ce qui s'est passé, on voit clairement que ce n'est qu'une écolière. Sa famille se bat depuis pour faire reconnaître la vérité. Pour de nombreuses familles, il n'y a eu aucune enquête. Elles ont juste dû vivre avec.
Dans 4 cas sur 5, personne n'a eu à répondre de la mort des enfants tués pendant les troubles. 186 noms sont recensés, mais Freya McClemens sait que la liste n'est pas exhaustive.
Il n'y a pas de liste officielle, ce que je trouve impensable. On s'est appuyé sur un livre qui s'appelle Lost Lives. C'est en gros une liste de victimes des troubles. Il nous a fourni, je crois, 143 noms. On a aussi mené beaucoup de recherches dans les archives numériques tenues par l'Université d'Ulster. On a lu des journaux de l'époque, on a parlé à beaucoup de gens. On a essayé de contacter les familles, de réaliser autant d'interviews que possible.
La démarche a demandé 3 années de travail pendant lesquelles les deux auteurs ont tâché de rencontrer toutes les familles des jeunes victimes.
Il y a certaines familles qu'on n'a pas réussi à contacter et certains enfants n'ont plus personne encore en vie pour parler d'eux, ce que je trouve vraiment triste. Mais les familles qu'on a pu rencontrer, je me souviens de m'être trouvée sur un palier avec des gens pleins de reconnaissance et je leur disais, c'est nous qui devrions vous remercier, vous nous avez invités chez vous, vous nous avez confié tous vos précieux souvenirs, vous nous avez donné des photos. Et il répondait, non, merci à vous, car vous êtes les premiers à nous avoir écoutés.
Malgré la littérature foisonnante sur les troubles dans les librairies irlandaises, aucun livre ne s'était intéressé aux enfants jusqu'ici. Avec Children of the Troubles, Freya McClemens espère leur avoir rendu justice et avoir contribué au souvenir du conflit nord-irlandais.
Un ouvrage qui n'a pas encore été traduit en français, mais qui sera publié aux éditions Hachette. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. À demain.
RFI.